Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Aujourd'hui, c'est deux pour le prix d'un. Vous savez, c'est quand même ces anciens cadeaux dans les lessives. Ce sont nos deux voix que vous allez reconnaître, grâce auxquelles vous allez prochainement bondir de votre canapé, courir dans votre salon en chantant la Marseillaise à tue-tête. C'est peut-être ce que vous avez fait hier, quand Griezmann a marqué de son retourné acrobatique ou quand Giroud a fusillé le gardien adverse. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère, que ces deux commentateurs nous servent les mêmes plats qu'hier au cours des prochaines semaines. On aime le filet et encore le filet. C'est la meilleure pièce. Bonjour Robert Pires, bonjour Xavier Domergue.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour.
Avec nous aujourd'hui.
Merci
dans deux
vous.
Jours, hein, c'est 48 heures pile poil le lancement de l'Euro 2020 qui se joue en 2021, mais on va l'appeler l'Euro 2020. Vous allez commenter les matchs des Bleus évidemment. Vous êtes un peu échauffé la voix hier lors du match de préparation contre la Bulgarie. J'avais juste une première question avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Déjà, en tant que passionné de foot, ça fait quoi de retrouver un stade avec du public et des supporters? Ils étaient que 5000 hier, mais j'imagine ça change tout. Vraiment ?
Ça change tout et ça fait du bien.
Ouais.
On avait l'impression, même pour nous, que c'était un vrai soulagement, vous l'avez dit. Que 5000, mais ils ont fait du bruit.
Ah oui, ils ont fait du bruit, ouais.
Ils ont fait du bruit, ils ont sorti les drapeaux. J'ai vu quelques vieux maillots. Donc,
Clément d'Antibes.
Ouais, voilà,
Clément d'Antibes,
toujours présent. Donc oui, le fait que les fans reviennent, ouais, c'est extrêmement important. Déjà pour les joueurs, parce que quand on est sur le terrain, on sent cette communion. Et justement, on reçoit, ça peut paraître étrange, mais une forme d'énergie. Et hier, c'est ce qui s'est produit. Ouais.
Je trouve que ça fait du bien. Ouais, ouais. Je trouve que ça fait du bien. C'est surtout un grand plaisir. On avait un large sourire avec Robert quand on a commencé à voir les joueurs sortir à l'échauffement. On a senti la petite clameur. On a vu sur le but de Griezmann cette envie d'aller le partager avec les supporters, de les regarder. Le côté très démonstratif. Et ça fait du bien parce qu'on l'avait un petit peu oublié. Moi, je regardais un petit peu en préparant le match. Je me suis dit, le dernier match où c'était plein, c'était la Moldavie. Donc, c'était en 2019, donc ça remonte. Mais il y avait eu un match, effectivement, qu'on avait fait ensemble contre le Portugal où il y avait eu une petite jauge à 1000 personnes. On était en alerte maximale à ce moment-là. Donc là, 5000, c'est quand même autre chose. C'est quand même vraiment différent. Et c'est que du bonheur, quoi. Ça fait plaisir. On était heureux de les voir. Eux étaient heureux d'être là. Et ça fait partie du football, du monde du football.
On en a besoin. Ouais, la Marseillaise, bien sûr.
La Marseillaise, c'était fantastique. Ouais, la fin de match, l'envie d'aller se rapprocher, de communier. C'est des images qui nous manquaient. Donc, quand on est amoureux de foot, on est très, très heureux de revoir ça.
Ça a manqué. Vous regrettez qu'on n'ait pas eu peut-être une jauge, comme ils l'ont fait dans certains pays, pour avoir au moins un minimum d'ambiance? Ou bon, vous pensez que c'était, après tout, la décision du gouvernement?
C'était peut-être nécessaire. En tout cas, c'était un choix dicté par le contexte sanitaire. On n'a jamais remis en cause ces choix-là. Donc,
ça dépend des pays aussi, du taux d'incidence du virus.
Mais ça dépend des pays. Ce sera le cas aussi à l'Euro, d'ailleurs. Ouais. Parce que je pense à Budapest, où la jauge sera de 100%. Donc, il y aura 65 000 personnes. Ce sera différent à Munich dans ce match France-Allemagne, effectivement, dans moins d'une semaine maintenant, dans 6 jours.
Où il y aura un peu moins.
Mais il y aura un peu moins, il y aura, voilà, mais on ne peut que se réjouir de ça, parce que ça fait partie
public,
du football et on a besoin du public. Donc c'était un plaisir hier de retrouver un petit peu de clameur.
Absolument, on a besoin du public et nous, on a besoin de vous, évidemment, hein, chers internautes qui nous regardez en direct sur Figaro Live, tvmag.com et bien sûr, la page YouTube de TV Magazine sur laquelle est diffusée cette émission. Si vous avez des questions, c'est le moment. Feu, qu'avez-vous pensé du match d'hier? Est-ce que vous aimez les commentaires de Robert, de Xavier ou pas? On ne sait jamais.
Ou
en
pas,
général,
ou pas.
Ils sont plutôt bienveillants ici. Hein. Qu'attendez-vous de la France à l'Euro? N'hésitez pas à vos questions, remarques ou suggestions. Ils répondront à tout cela après les news de Damien Canivez. Salut Damien,
salut
ça
Nicolas,
va
Nicolas, salut Xavier, salut Robert.
On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir.
Oui.
Alors, résultat.
Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais hier, il y avait un match de football à la télévision. M6 retransmettait en direct donc la rencontre entre la France et la Bulgarie en compagnie de plus de 7 millions de supporters qui ont applaudi la victoire des Bleus 3-0, soit 31,7% de
part d'audience. Pareil que contre le Pays de Galles.
Hein. Ouais,
sur TF1.
À peu près pareil, mais c'est légèrement au-dessus quand même pour M6. France 3 enfile la médaille d'argent avec un épisode pourtant en rediffusion, là aussi avec un ex-footballeur. D'ailleurs, il s'agissait d'Eric Cantona qui portait la série Le Voyageur. Cet épisode, pourtant en rediffusion, a rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs, preuve que la fiction française est encore en bonne santé. France 2 monte sur la troisième marche du podium avec un prime time spécial d'affaires conclues avec Sophie Davant que nous recevions hier sur ce plateau et qui, pour vous dire la vérité, était assez anxieuse. Finalement, le score n'est pas si sale. Voilà, près de 2 millions de téléspectateurs ont répondu présent.
Elle a découvert qu'il y avait France-Bulgarie, elle s'est dit « Oh non, pourquoi ils l'ont ?»
Elle a découvert sur ce plateau. Elle a senti la terreur dans ses yeux. Et en on termine avec TF1 et c'est assez rare pour le souligner. La première chaîne ne monte pas sur le podium cette fois-ci avec la série Dirty John. 1,7 million de fidèles pour la suite de cette série américaine, 7,4% du public.
Le foot évidemment, hein, on sait, ça va être les, a priori les meilleures audiences. Elles sont, je m'adresse plutôt aux spécialistes, Xavier, est-ce que c'est toujours très dépendant du parcours des, de l'équipe de France, les audiences. Il y a des audiences basiques, hein, évidemment, que tout le monde connaît, mais ça dépend aussi beaucoup du parcours.
Ça l'est, ça va l'être. On se souvient du record d'audience sur la finale de l'Euro 2016 réalisé par M6. Forcément, ça a été conditionné, ça a été conditionné forcément par le parcours des Bleus et par le fait qu'ils disputent cette finale face au Portugal, qui plus est chez nous en France. Maintenant, on s'aperçoit quand même que le football, certains disent qu'il suscite peut-être un petit peu moins d'intérêt. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que je trouve que les audiences sont plutôt intéressantes, que ce soit sur le football féminin, sur le football masculin. On a la chance aussi de pouvoir couvrir pour W9 l'équipe de France féminine qui est en constante progression en termes d'audience aussi, malgré le scénario des matchs qui peuvent être un peu particuliers parce que quand il y a 4-0 pour les Bleus au bout de 5 minutes ou 12-0 de la 80e, on peut se dire que ça peut baisser à ce moment-là. Mais non, ça ne baisse pas. Hier, moi, je trouve que le beau symbole, c'est de voir que, à travers ces chiffres-là qui sont très positifs, de voir que, en fait, cette équipe de France suscite peut-être encore un petit peu plus d'intérêt qu'avant par le retour de Benzema, par l'incertitude au niveau du système, du schéma, des choix, par le retour du public. En fait, ces deux matchs de préparation, je trouve, ont suscité un intérêt vraiment particulier et peut-être supérieur au précédent.
Puis on est un peu annoncé favori, donc ça annonce un truc. On va en parler tout à l'heure avec Robert, notamment, de ce statut de favori, hein, qui n'est pas simple à assumer toujours. On continue ces infos, Damien, avec une nouvelle animatrice qui va arriver dans un nouveau jeu de France 2.
Alors, ce n'est pas le nouveau jeu, vous allez voir, Nicolas, on le connaît très bien, celui-là.
C'est un vrai jeu.
C'est un vrai jeu. Un vrai
et dont l'animateur a démissionné, c'est ça.
Vous avez tout compris. On vous avait informé ici même sur ce plateau que Nagui ne remplirait pas aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place, hein, ce jeu de culture générale diffusé chaque midi sur France 2, qu'il animait depuis 15 ans maintenant. Et à l'annonce de son départ, France Télévisions s'est donc activement mise à la recherche de plusieurs candidats potentiels au cours des derniers mois, avec notamment le tournage de Pilote. Il y avait Laurence Boccolini qui a fait un essai, ainsi que deux animatrices belges. Et selon nos confrères du Parisien, hier soir, le groupe audiovisuel de service public a fait son choix. Et c'est bien Laurence Boccolini qui devrait donc succéder à Nagui. L'ex-animatrice de TF1 connaît bien cet univers du jeu, puisqu'on rappelle qu'elle a animé des émissions emblématiques sur TF1 comme Money Drop ou encore Le Maillon Faible. Concrètement, quand les téléspectateurs verront-ils Laurence Boccolini à la tête de ce jeu? Et bien, toujours selon le Parisien, les tournages débuteront le 1er juillet. Et donc, on devrait la voir à l'antenne, a priori, juste après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire à la mi-août. Et pour rappel, Laurence Boccolini est animatrice sur France 2 depuis cette saison. Elle animait Mot de passe chaque matin sur la chaîne, mais ce jeu ne sera pas reconduit à la rentrée.
Absolument. Alors ça, les reconversions, les changements de poste, on a connu dans le foot. On a par exemple David Ginola, hein, qui a été un bon exemple, qui a présenté une émission de foot, puis un divertissement sur M6. Cantona est devenu acteur. Est-ce que Robert, quelque part, peut-être une petite tentation un jour de faire... Non, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser? Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non.
Non, parce que j'ai pas. Un peu comme on me pose souvent la question, est-ce que tu te verrais bien entraîner? Non, parce que j'ai pas l'âme, en fait, d'entraîner, d'être entraîneur et surtout d'être un leader. Je ne l'ai pas été en tant que joueur et ça, je pense qu'on est un petit peu comme, justement, comme Didier Deschamps. Lui, il a ça en lui. Moi, je ne l'ai pas. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir retrouvé une reconversion avec les médias. Chose qui n'est pas facile parce que quand on est footballeur professionnel ou athlète de haut niveau, le lendemain, quand le contrat s'arrête, je peux vous dire que c'est dur parce qu'on se pose beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle direction on va aller et qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est vrai que le fait de me retrouver dans les médias aujourd'hui avec vous, pour moi, c'est juste une chance extraordinaire.
Comme il y en a beaucoup d'ailleurs de 98, on va en parler. Vous, Xavier, pareil, changement de domaine, vous allez remplacer Julien Courbet, donc qui veut être mon associé.
Oui, exactement.
Avec les entrepreneurs, hein, c'est une émission qui avait bien marché.
Oui, ouais, tout à fait.
Comment on passe du sport à ça? Ça s'est passé comment? Voilà. Une reconversion aussi.
Oui, ouais, de manière assez surprenante, mais ça témoigne encore de la grande confiance qu'a eu M6 par rapport à ce choix-là. C'est-à-dire que Guillaume Charles, le directeur des programmes, m'a contacté il y a quelques semaines en me proposant ça. Donc, sur le coup, j'étais un peu surpris, bien sûr.
Pourquoi moi?
Et il m'a simplement dit que j'étais quelqu'un de bienveillant, que j'avais une image très positive et qu'il trouvait qu'il y avait peut-être des similitudes entre les deux rôles à occuper. Et donc, j'ai essayé de réfléchir rapidement et je me suis dit, allez, relève le challenge, c'est différent, mais moi j'ai vu quand même pas mal de similitudes et de points communs dans l'approche du rôle demandé, c'est-à-dire que je suis là pour accueillir et pour accompagner les entrepreneurs qui viennent proposer leurs projets et proposer leur pitch devant les investisseurs. Ouais. Donc je suis un peu en quelque sorte le journaliste bord-terrain qui fait l'interview d'avant-match, qui essaye de le mettre dans les meilleures conditions, ensuite place au match. Et je le récupère après avec une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc, je me dis qu'il y a quand même pas mal de corrélations entre les deux. Et voilà, j'aime bien essayer de... Parfois, c'est important de se mettre un peu en danger, de relever un challenge et essayer de le faire. Et voilà, le tournage est terminé. C'est le montage maintenant. Il y en a pour encore quelques semaines. En tout cas, ça a été super. J'ai été bien accueilli. Un nouveau monde pour moi. Monde de l'animation, entre guillemets. Mais,
ouais, exactement.
Voilà, j'ai pris du plaisir à accompagner les gens, à échanger surtout, le côté curiosité plutôt intéressant en fonction du parcours des gens. Et humainement, ça a été une très belle expérience. Donc,
on a de découvrir
tout
ça
d'avoir,
en tout cas.
D'avoir eu confiance en moi, effectivement, pour ça. Ouais.
C'est une émission qu'on aime beaucoup ici. On termine, Damien, avec la finale de Top Chef. Et alors là, une annonce.
Ça, c'est dingue.
Ultra surprenante de M6.
Ça, c'est fou.
Votre chaîne.
Là, oui, on était un peu sur les fesses ce matin quand on a découvert ça. La finale du célèbre concours culinaire, on le rappelle, est diffusée ce soir sur M6. Deux virtuoses des casseroles vont s'affronter sans pitié. Il s'agit d'un côté de Mohamed Cheikh, 28 ans, et l'autre, Sarah Mingui, 25 ans, qui est d'ailleurs la première femme depuis 2016 à accéder à cette manche de la compétition. Seulement, voilà. Et c'est peut-être inédit d'ailleurs dans l'histoire de la télévision, il faudrait le revérifier. M6 appelle les téléspectateurs à ne pas regarder la finale de son émission. Ouais. On se demande pourquoi. Eh bien, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez que les restaurants peuvent accueillir des clients en salle avec une jauge à hauteur de 50% et plus longtemps encore d'ailleurs, puisque le couvre-feu est désormais reculé à 23h.
Et ce soir, ouais.
Du coup, pour soutenir le secteur de la restauration, auquel M6 est bien sûr très attaché, la chaîne a choisi d'inciter son public à se rendre dans ses établissements de bouche. D'ailleurs, tout au long de la journée, les candidats de l'émission devraient d'ailleurs même relayer des messages pour inciter les Français à se rendre au restaurant.
Et on rappelle que Michel Sarran, Philippe Etchebest et Anna Rose ont été très impliqués dans le projet. Ils ont même été consultants pour Emmanuel Macron sur la réouverture des restos. C'est dingue, quoi. Une chaîne qui dit à ses créateurs, ne regardez pas la finale. En plus, Top Chef fait un carton d'audience. Ça vous surprend, ça, Xavier ?
Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable et je l'ai vu ce matin.
C'est génial, hein,
Je me suis levé ce matin, j'ai vu effectivement le tweet d'M6, en plus en jaune. C'était vraiment en valeur. Du coup, on pouvait vraiment voir.
Vous avez cru que c'était une blague
ce qui se passait. Oui, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, effectivement
Qu'une chaîne dit, ne regardez pas notre émission.
C'est énorme, quoi.
Cette finale est très, très attendue. Donc, après, moi, je trouve qu'il y a une part de solidarité qui est super. Parce qu'effectivement, les restaurateurs et Philippe Etchebest en sait quelque chose parce qu'il a milité beaucoup ces derniers mois. Et voilà, je trouve que c'est une vraie solidarité. Ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de communication.
Absolument. Bon, en tout cas, on a de voir le résultat. Il y a le replay, hein, évidemment. Les gens pourront aller revoir la fin demain. Mais je pense qu'il y aura quand même un petit peu de monde. Hein. On verra les audiences demain. Ça devrait quand même cartonner. C'est fini, Damien,
c'est
pour
fini,
les news.
C'est fini, Nicolas. C'est
terminé. Et bon, on passe ensuite à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes en direct avec Robert Pires et Xavier Domergue. Et toutes vos questions dans un instant. Robert Pires, Xavier Domergue avec nous. Vous pouvez poser vos questions quelques instants. Damien prépare sa tablette. On va évidemment récupérer tous vos témoignages. Vous commenterez le match de l'équipe de France qui démarre de l'Euro 2020 ce vendredi. La France, ce sera mardi, hein, le premier match. On va revenir juste un petit peu sur le match d'hier. Je m'adresse un peu aux spécialistes. Deuxième match de préparation, deuxième victoire, 3-0. Petite incertitude sur Benzema, a priori, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Robert, de ces matchs de préparation? Voilà, maintenant, on va rentrer dans l'Euro. Plutôt bien, Deschamps essaie des nouveaux tactiques
Tout simplement qu'au niveau de la confiance, elle est optimale. Ouais. Je crois que c'est ce qui est important. Moi, j'ai tendance à ne pas trop m'enflammer parce que je sais que ce ne sont que des matchs de préparation. Ce sont des adversaires qui étaient à notre portée, mais ce sont de genre de matchs qui justement nous servent à bien peaufiner justement un schéma tactique, de trouver des coordinations entre les joueurs, d'impliquer maintenant Karim Benzema dans ce schéma, comment il va s'adapter justement avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, comment ils vont pouvoir se trouver.
On n'a pas trop vu hier, hein, hélas, mais il est sorti un peu tôt.
Malheureusement, il est sorti un peu tôt parce qu'il a reçu une béquille, mais ce qui est intéressant, c'est que Didier part dans un schéma, on va dire un 4-4-2, avec ce qu'on appelle nous au milieu un losange. Ouais. Et Et puis après, les trois devant, ils sont capables de réaliser de belles choses. Et ce qui est bien, c'est que ce que j'en ai vu hier, c'est que, bon, malheureusement, Karim s'est blessé, mais Olivier Giroud est rentré, a fait la différence, et ça implique que tout le monde, en fait, est concerné. Et justement, je trouve que les remplaçants, ils ont un rôle extrêmement important quand ils rentrent.
C'est-à-dire que Giroud a perdu un peu de sa place de titulaire pour vous, Xavier, a priori. On rappelle qu'il a un ratio en équipe de France par rapport à Benzema. C'est le nombre de buts par rapport au nombre de matchs qu'il a pu jouer.
Bien sûr.
Qui est très impressionnant. Il est presque à 0,5, presque un but tous les deux matchs. Ouais. Benzema a un ratio beaucoup moins.
C'est assez exceptionnel. Il a marqué ses 45e et 46e buts. Là, on l'a rappelé, je crois, hier de mémoire, mais il revient à 5 petits buts simplement de Thierry Henry. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc, c'est assez fantastique. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, et Robert l'a très bien dit, il le connaît parfaitement, c'est cette capacité qu'il a à se relever de la pire des situations. On parle de pire situation parce que dans certains moments d'une carrière, on se dit, bon, là, c'est fini, il n'arrivera pas, pas à réagir, il n'arrivera pas à se relever. Et en fait, il se relève toujours. Et il l'a confié hier à Karine Galli aussi. On le surnomme le phénix grenoblois. Ses amis le surnomment comme ça. Et c'est vrai que la comparaison est bien trouvée parce qu'encore une fois, hier, on rappelle juste 2-3 statistiques, mais il avait joué que 38 minutes, je crois, sur les 10 derniers matchs avec Chelsea. Donc, il a très peu de rythme, très peu de compétition. Et Didier Deschamps le fait rentrer parce que Karim Benzema se blesse. Et il arrive à marquer 2 buts. Il a toujours ce professionnalisme, cet état d'esprit irréprochable.
Qui continue à se préparer exactement comme s'il était.
C'est une vraie source d'inspiration, je trouve, pour beaucoup. Et c'est ça qui est positif, c'est que Benzema, Griezmann, Mbappé, c'est fantastique. Mais il y a aussi Giroud, il y a aussi Dembélé qui a fait une très bonne entrée hier. Il y a aussi Kingsley Coman qui était un peu touché physiquement, mais c'est rien. Il sera là dans le groupe, bien sûr, pour ce match contre l'Allemagne. Donc, voilà, il y a un vivier, il y a un réservoir aujourd'hui qui est fantastique et qui fait trembler beaucoup de grandes nations européennes et beaucoup de sélectionneurs. Donc, c'est juste extraordinaire.
Robert, quand on a quelqu'un comme ça dans le vestiaire, on va dire quasi exemplaire, ce qui est Giroud, de professionnalisme, de quel que soit ce qui lui arrive, c'est, j'imagine, pour tous les autres joueurs, il n'y a pas moyen de se reposer sur ses lauriers. Quand on a ça devant soi, on est obligé de se mettre à ce niveau.
En fait, dans l'état d'esprit, Olivier Giroud, il a tout compris. Et pour les jeunes, ça doit être un exemple, et comme une locomotive, de dire, voilà, il est remplaçant, mais à chaque fois qu'il rentre, ou quand il a l'opportunité de faire la différence, il l'a fait. Donc ça veut dire que son état d'esprit est bon, il est positif.
Il râle jamais quand il est sur le banc.
Et de toute façon, il l'a dit, il ne râlera jamais parce qu'il a la chance de faire un métier extraordinaire. Il est en situation délicate avec Chelsea, notamment avec l'arrivée de Tuchel, mais ça, il le sait. Il s'adapte à cette situation. Il ne met jamais en cause son jeu parce que à chaque fois, on compare toujours avec Karim Benzema. Ça a été toujours un débat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont complètement différents. Mais les deux, dans ce qu'ils nous proposent, peuvent apporter un plus à l'équipe de France. Et il ne s'agit pas de faire un débat, il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur entre les deux, mais de se dire que les deux sont appelés par Didier Deschamps et les deux, à n'importe quel moment, vont faire la différence. Karim Benzema, il va la faire. Et Olivier Giroud, il l'a fait hier soir. Et c'est tout à son honneur.
Absolument. Damien.
Oui, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine. Il y a du monde.
Ah,
il y a beaucoup, beaucoup de questions.
Martine, est-ce que
Martine, Martine n'est pas là, mais Martine, panne de réveil pour Martine. Apparemment, on ne la voit pas sur la page encore.
Vous êtes en Martine.
Il a sorti les gants de boxe, Robert Pires. On salue Clément qui estime que vous êtes les meilleurs commentateurs sportifs à la télévision. Merci. Alors, Rico, souhaitez-vous poser une question, Robert, concernant le fait, est-ce que vous aimeriez devenir entraîneur? Vous y avez déjà répondu. Vous avez dit.
Voilà, Rico, il l'a dit.
Voilà, exactement. Et on va poser une question de Claude Ariel à vous, Xavier, qui aimerait savoir si ça ne vous agace pas que l'on vous compare tout le temps à Grégoire Margoton, puisque vous êtes, selon lui, le sosie vocal du commentateur.
Oui, il y a une petite ressemblance, vous l'avez beaucoup dit ça déjà.
Oui, il y a une petite ressemblance, évidemment. Il y a un ton qui est assez grave, et effectivement, je peux le comprendre. Maintenant, ce n'est pas nouveau. Ça ne m'agace pas, mais j'aimerais bien que ça s'arrête un petit peu, parce qu'effectivement, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. J'appartenais à une très belle famille avant, qui était la famille beIN Sport.
Pendant
8 ans et demi. Et ça m'a un peu suivi. Je trouve que c'est une comparaison qui est déjà pour moi à l'origine gratifiante parce que ça a été forcément une source d'inspiration aussi
oui, et puis c'est un grand
dans ma construction. Donc voilà, maintenant, ça ne m'agace pas, ça me fait même rire. Je vois souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, quand on commente un match, je vous avais dû voir cette image-là, l'image des deux Spider-Man qui se regardent, qui disent c'est toi, c'est moi. Et ça va, elle passe à chaque fois, quand il y a un match.
Il y a des gens dans la rue qui viennent vous dire mais pourquoi t'es avec Pires, t'es plus avec Lizarazu, par exemple, c'est ça ?
Non, non,
il y a des gens qui vous disent il n'y a plus Lizarazu, mais non.
Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires comme ça. Il y en a eu aussi hier. Bon, moi, je préfère m'en amuser et en sourire. Et voilà, Grégoire a eu quelques sorties par rapport à ça, très positives aussi. Je pense qu'on est deux personnes qui se respectent énormément. Et voilà, après, à aucun moment, j'essaye de faire la même chose. J'essaye d'être moi, d'apporter ma passion.
Très passionné.
Donc après, ça ne m'agace pas, ça me fait plutôt sourire. Quoi.
Alors, j'aimerais vous poser une question aussi, Robert, à vous. Un vrai conseil maintenant, champion du monde 98, ça c'est comme les Bleus actuels qui l'ont été en 2018, ouais. Et ensuite l'Euro en 2000. C'est-à-dire vous avez fait le fameux doublé que les Bleus vont tenter de faire pour tenter de vous égaler. Quel genre de conseil vous leur donneriez pour faire l'Euro après la Coupe du Monde ? Déjà pour expliquer au grand public qui nous regarde, souvent on dit que l'Euro est plus fort, plus intense et qu'il y a une vraie homogénéité, enfin... qu'il est plus compliqué, en fait, que gagner une Coupe du Monde. S'il y a moins de petites équipes, on va dire.
Je confirme.
Vous confirmez, oui.
L'Euro est beaucoup plus dur sur plusieurs points, notamment techniques, parce qu'en face de nous, on va rencontrer des joueurs qui sont, je pense, aussi forts que nous, les Allemands, les Portugais. Ouais. Attention à la Hongrie, peut-être un degré moindre, mais ce sont des joueurs talentueux. Et puis surtout, c'est un long chemin parce que physiquement, ça va être dur. Et puis maintenant, on rajoute une case, c'est les huitièmes de finale. Donc ça veut dire que ça va être de plus en plus délicat pour aller soulever le trophée. Mais c'est une compétition qui est honnêtement qui est très exigeante. Et c'est pour ça que Didier, à mon avis, bon, il le sait mieux que tout le monde, c'est que le rôle, moi j'insiste beaucoup. Pas sur les titulaires, parce que les titulaires, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais sur le rôle des remplaçants et l'implication qu'ils vont mettre une fois qu'ils vont sur le terrain. Parce que tout simplement, en 2000, si on gagne, c'est parce qu'il y avait une hiérarchie qui était établie par Roger Lemaire, et puis il y avait les remplaçants. Mais les remplaçants, il faut qu'ils se mettent dans l'état d'esprit qu'ils sont là ou qu'on est là pour aider l'équipe de France, et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, le message, c'est pas aux titulaires.
Je rappelle, en finale contre l'Italie, c'est vous, Trezeguet et Wiltord, les trois remplaçants qui
basculent le match. Enfin, on parle toujours de cette finale face à l'Italie.
Mais normal, c'est normal.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
nous a fait rêver.
Mais non, mais c'est pas
ça.
C'est
normal qu'on en parle.
Contre le Portugal, non, mais j'en suis conscient. Mais le Portugal, c'est pareil. Contre l'Espagne, c'était la même chose. C'est-à-dire que l'application, moi, les titulaires, il y a aucun problème. J'ai énormément confiance en eux. Moi, ce que je veux dire, et ce que Dédé doit dire aussi, c'est les remplaçants. Moi, j'insiste énormément sur ce thème-là parce que le rôle qu'ils vont avoir, eux, ont un rôle déterminant.
On en a reparlé, c'est marrant parce qu'on a recommenté il y a quelques semaines.
C'était marrant.
Sur 6play, il y a une chaîne 100% foot qui a été créée par M6 à l'occasion de l'Euro. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de recommenter des matchs de légende de l'Euro. On a recommenté ensemble cette finale de
France-Italie. Vous avez commandé France-Portugal avec votre papa, qui avait
mis
un doublé d'ailleurs en demi-finale.
Très particulier.
Le Thuram de 84, votre papa.
Alors, très particulier émotionnellement, c'est sûr. Après, avec mon papa, ça a été particulier. Avec Robert aussi, parce que Robert a revu le match, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir la chance déjà de commenter avec Robert. Pour moi, c'est une chance inouïe, un privilège immense. De revivre ces matchs-là où il nous explique un petit peu ce qui se passe à telle ou telle minute. Ouais. Les petits mots de ses coéquipiers juste avant qu'ils entrent.
Les petits mots, les piques, quand même.
Les piques.
Les piques de Marcel Desailly, notamment. Bon, voilà.
La passe décisive pour Trezeguet.
En tout cas, allez-y, regardez, parce que c'est vraiment plaisant à faire. Et je pense que c'est assez plaisant à regarder. Et pour revenir au rôle des remplaçants, Robert les connaît très bien. Et quand je dis qu'il nous avait fait rêver, il faut quand même se souvenir qu'il y avait, Nesta, qu'il y avait Cannavaro, et que tu t'es joué de toute cette petite défense-là à l'époque.
Absolument.
Pour faire la différence.
Entre les jambes de Cannavaro. Hein,
voilà, donc c'est
Nesta,
juste.
C'est juste
fantastique.
Un peu.
Donc, pour répondre à votre question, l'euro est beaucoup plus compliqué.
Oui, plus compliqué.
À gagner.
Et c'est difficile de faire le et c'est difficile de faire doubler. Bien le sûr. Fait qu'on soit annoncé à peu près partout, hein, et on va le dire, On se base sur, par exemple, des codes des bookmakers. Tous les sites de paris sportifs, que ce soit en France, en Angleterre, tous donnent la France premier avec une courte tête, je crois, avec l'Angleterre, la Belgique, mm-hmm. Ce trio-là. C'est toujours plus compliqué. Vous étiez favori, vous, en 2000 ?
On était favori, oui. Les,
parce
oui,
que
oui.
Champion du monde.
Ouais. Oui, parce que vous avez cette étiquette de champion du monde et que les équipes que vous allez rencontrer, elles n'ont qu'une envie, c'est de vous battre. Et c'est normal et logique. Donc, c'est pour ça que par rapport à ces deux matchs de préparation, oui, c'est bien. Ça s'est bien passé, bien préparé. Mais il ne faut pas s'enflammer. Parce que les Allemands, ils ont beau dire qu'on est favori, qu'on est plus fort qu'eux, qu'eux sont en reconstruction. Moi, je me méfie toujours de ces messages-là. Donc, c'est pour ça que je suis content. Non, je suis content des matchs qu'on vient de réaliser. Mais je suis mesuré parce que je sais que la compétition, et Didier Deschamps l'a dit hier en interview, la vérité, c'est face à l'Allemagne et ça sera autre chose.
C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Robert, parce qu'on a la chance dans ce nouveau rôle, entre guillemets, de pouvoir échanger avec Guy Stéphane, par exemple, un petit peu avant les matchs. Et c'est vrai qu'on a un petit peu discuté hier au cours de la journée. Et Guy me disait, en fait, parce que moi je lui disais, c'est tellement plaisant de voir le début du rassemblement. On voit les séquences d'entraînement, tout le monde a le sourire, ça travaille bien, ça travaille physiquement, mais vraiment dans la bonne humeur. Et on a le sentiment que le groupe vit bien. On aime bien cette phrase-là. Mais c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a. Les résultats ont été bons, dans le jeu, ça se passe bien. Et Guy Stéphane me disait... Ouais, c'est vrai qu'en fait, on se dit qu'il y a un truc qui cloche.
Il y a quelque chose qui
est... Il y a un truc qui cloche parce que depuis le début, tout va bien. Enfin, c'est vrai que leur rôle aussi, c'est à travers leur expérience, l'expérience de Didier que tu connais parfaitement, c'est de pouvoir permettre à ces joueurs-là de rester concernés, de ne pas se sentir arriver avant la compétition parce que on peut avoir naturellement ce sentiment-là.
En 2002, on était aussi favoris. Hein.
Voilà.
Bon, mais on sait ce qu'il est arrivé, hélas.
On avait les meilleurs buteurs.
Oui,
bien sûr. À l'arrivée, on a mis 0 but. Donc, c'est pour ça que je reste mesuré. Voilà. Je sais que la compétition, c'est autre chose. Ouais. Et je me méfie des Allemands. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent.
Et c'est des Portugais aussi, vous les connaissez bien.
Oui, un petit peu. Les Portugais, je les connais un petit peu. Et en plus, on va jouer à Munich.
Ouais.
Ah oui. Donc, attention.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Sacha pour vous. Robert, une question, rassurez-vous, pas trop violente.
J'ai joué en Angleterre.
Robert a très peur des questions des internautes. Ils sont tous sympas.
Est-ce que la proximité que vous avez avec Didier Deschamps vous permet de grappiller de temps en temps des indiscrétions? C'est
oui.
Sa question.
Ah oui, c'est intéressant.
Ouais. Oui, bien sûr. Ouais.
Mais, il vous donne un peu de biscuit.
Oui, mais je ne les dévoilerai pas.
Vous ne les dévoilez pas.
Non, parce
mais
que.
Est-ce qu'il en donne aussi à Lizarazu sur la chaîne concurrente?
Je pense que oui, parce qu'il y a eu, bien sûr, avec le fameux doublé de 90-2000, il s'est créé une certaine amitié entre nous. Donc je l'appelle, il me donne quelques. Ouais,
Vous saviez que Karim Benzema allait revenir en équipe de France? Est-ce que vous êtes le seul en France? Vous ne le saviez pas.
Non, ça, je crois qu'il l'a dit à personne.
Il l'a dit à personne.
Sauf à Guy Stéphane. Mais disons que si j'ai une info vraiment, vraiment sérieuse, je vais dire, de la part de Didier, non, je ne la dirai pas. Parce que je veux vraiment maintenir cette confiance qu'il y a entre lui et moi. Ouais. D'accord. Mais on s'appelle.
Alors, cet euro, il est très particulier hein, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans quel pays il se déroule. Il se déroule dans plein de pays. Hein.
On est prêt.
La finale, le Final Four, un peu sera en Angleterre, basé à Londres, mais dans plein de pays différents. À l'heure évidemment du Covid, quand Michel Platini a eu l'idée, il ne pouvait pas le prévoir à l'époque, mais ça tombe mal. Quel genre de mesures vous allez prendre sanitaire? Parce que vous allez vous déplacer à Budapest, vous allez vous déplacer à Munich, vous allez vous déplacer
Saint-Pétersbourg,
à Saint-Pétersbourg,
Rome,
voilà.
Comment Amsterdam.
C'est très sympa hein, touristiquement, mais à l'heure du Covid, comment on fait? C'est pas un cauchemar.
On va se faire tester tous les jours.
Ouais, c'est ça.
Test PCR tous les deux jours.
Ça commence déjà dès aujourd'hui.
Vous êtes vacciné déjà?
Non.
Pas encore.
Non. Ça a commencé dès aujourd'hui. On va en refaire un demain aussi parce qu'on part à Saint-Pétersbourg.
J'ai les narines qui sont prêtes.
Ça va être dur. Hein.
Non, on a eu un peu l'habitude effectivement de le faire. Mais voilà, après c'est que du bonheur. C'est-à-dire qu'on a la chance de couvrir un tel événement. D'avoir ces 11 matchs, de se déplacer. Je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Il y a pas mal de rédactions où les commentateurs ou les envoyés spéciaux restent à Paris et ne partent pas. Donc voilà, nous, on est vraiment privilégiés. Donc on part à Saint-Pétersbourg vendredi pour notre premier match samedi qui sera Belgique-Russie à 21h. Le lendemain, on prend le petit avion pour partir à Amsterdam pour Pays-Bas-Ukraine le dimanche. Donc là, effectivement, le timing est assez serré.
On va se faire tester
tous les jours, mais et c'est extraordinaire. Après, on partira à Munich, mardi, France-Allemagne. Mercredi, on repart directement en Italie parce qu'il y a Italie-Suisse à Rome le lendemain de France-Allemagne. Donc Voilà, c'est rythmé, mais c'est
on a
juste
un planning
bien chargé.
Le planning est chargé, établi, rigoureux, mais on va se faire tester tous les jours.
Voilà. Et d'ailleurs, on va bientôt rendre l'antenne, puisqu'on sait que vous devez partir à temps. Juste un petit mot sur votre duo également. Comment vous avez pris vos marques? Vous êtes un duo récent. On sait que tous les grands duos de commentateurs ont parfois mis du temps, hein, les Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, Lisa Razou, Margoton, ça prend toujours un peu de temps à créer. Vous, on a l'impression qu'il y a une alchimie. C'est fait tout de suite. Vous ne connaissez pas spécialement, vous êtes croisé à Beansport, hein, c'est ça?
Oui,
un peu. Ensemble, ouais. Chez Bean, ouais.
Mais comment ça s'est fait entre vous?
Oh, moi, c'est sur un seul mot, c'est naturel.
Ouais.
Oui, ben, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on est complices. Et puis surtout, à l'arrivée, on a la même passion du football. Je pense que lui, il est beaucoup plus armé que moi sur le football, vraiment.
La connaissance,
sur le contenu, il est très fort, ouais, très fort, ouais. Non, et très vrai, professionnel. C'est... Moi, je suis le consultant, donc je le suis. Et vous parliez d'alchimie, ouais, c'est vrai que ça se passe très bien depuis le début.
Ouais, voilà. Ça s'est fait naturellement, comme le dit Robert, c'est une relation, je pense, basée sur la sincérité dès le départ. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'intègre, d'entier.
Et pour moi, vous confirme, c'est vrai.
Pour moi, ce sont des valeurs qui sont très importantes. J'attache beaucoup d'importance aux relations humaines, et c'est vrai que ça s'est fait naturellement. On s'entend bien et voilà, on essaye encore une fois naturellement de le retransmettre. On ne joue pas, on partage de bons moments et c'est vrai que moi j'ai une chance inouïe de pouvoir partager ces moments avec Robert et je la mesure au quotidien, cette chance-là. Donc.
Est-ce qu'on peut aussi dire ce qu'on veut quand on est à une heure de grande écoute comme ça sur une chaîne comme M6, ouais. TF1 qui sera le co-diffuseur, c'est pas tout à fait pareil que sur Bein qui est une chaîne plus... Est-ce qu'on peut aussi dire ce qu'on veut ou faire... Est-ce qu'il faut aussi avoir une double personnalité? On se souvient que Jean-Michel Larquet commentait les matchs de l'équipe de France sur TF1 plutôt très normalement. Mm-hmm. Et dès qu'il passait sur RMC après le match, il balançait des taquets sur les joueurs. Mais on ne peut pas tout faire et tout dire exactement, non?
Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais trop aimé les filtres. Donc, j'estime qu'M6 m'a choisi parce que ma manière de commenter plaisait peut-être au groupe chez Bein. Donc, je n'ai pas eu envie de me renier, de changer quoi que ce soit. Donc... non, après, il y a une manière de dire les choses, évidemment, mais ça, c'est une manière de dire les choses qui est la même sur Bein que sur M6 aujourd'hui. Donc, voilà, après, il y a un ton un petit peu plus grand public, entre guillemets. Public, ouais.
Mais Robert, vous pourriez dire à quelqu'un, oh, c'est une catastrophe, il faut qu'il sorte tout de suite, tout. Non, quand même pas.
Non, parce que moi,
parce que vous avez des joueurs aussi.
Personnellement, je ne suis pas dans cette optique-là de torpiller les joueurs, parce que vous l'avez dit, j'étais joueur, j'ai eu la chance d'avoir fait une carrière comme j'ai pu réaliser. Donc je sais ce que ressent le joueur dans des moments un peu délicats. Et ce n'est pas mon rôle de le torpiller. Le rôle là, c'est les journalistes ou les fans. Ça, il n'y a aucun problème. Mais personnellement, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de rentrer dans cette direction-là. Je suis avec Xavier sur une analyse, expliquer les choses, pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas, le ressenti justement que peuvent avoir les joueurs, que justement... Les supporters ou les journalistes n'ont pas. Donc ça, c'est plutôt mon rôle. Maintenant, si le joueur n'est pas bon, oui, je peux l'expliquer, mais toujours en étant modéré dans mes propos.
Damien, une dernière question. Allez, après, on va en l'antenne.
Attention.
Martine, toujours pas arrivé. Est-ce que vous aimez les femmes qui comptent le foot?
On a une bombe nucléaire qui vient d'arriver. Alors attention, c'est une question de Sacha, qui aimerait savoir comment se passe la répartition des matchs entre M6 et TF1.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas...
C'est violent.
Vous êtes à peu près moitié-moitié.
Oui, ça c'est particulier. TF1 a 12 matchs, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Nous, on en a 11.
Vous avez la finale.
On a la finale qui s'est jouée
au tirage au sort.
Oui. Vous l'aviez déjà en 2016. Hein. Vous
comme
avez du
ça, c'était le cas effectivement à l'Euro 2016. Donc, il y a pas mal de réussites au tirage au sort, c'est vrai. Ensuite, je pense que c'est un échange de bons procédés.
Si l'équipe de France est en demi-finale, elle sera sur TF1. En quart, c'est chez vous. En huitième, c'est chez eux. En fait, vous alternez en fait.
Exactement. On a un match de phase de groupe qui est, à notre sens, le match peut-être le plus important par rapport au fait que c'est le début d'une aventure dans un Euro.
France-Allemagne.
Donc c'est un match marquant. Et c'est France-Allemagne.
Votre premier match, oui.
Voilà,
et c'est déjà prêt.
Pas pour nous, hein, pour les joueurs.
Vous êtes un peu tendu quand même, France-Allemagne, à vous.
Bon. Non, je suis pas tendu. Duel entre les deux derniers champions du monde.
Attention.
Non, mais c'est quelque chose. Donc effectivement, il y a ce France-Allemagne, TF1, les deux autres matchs de phase de groupe. L'équipe de France en 8e. Si l'équipe de France a le bonheur. De passer en quart de finale, on récupérera les Bleus à ce moment-là. En quart de de finale. Et puis en demi, c'est un échange de bons procédés. Ouais. Je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence. Ça n'est pas du tout de mon ressort. Hein. C'est d'autres personnes qui s'en occupent, notamment Frédéric De Vincel, donc, qui gère ça avec beaucoup de maestria. Donc non, ça fonctionne bien, on s'entend bien, il y a du respect, c'est le plus important.
Bon, dernière question et on vous laisse partir. Le petit pronostic. Oui. Allez, un petit truc comme ça sur le vainqueur. Ouais, donnez-moi un vainqueur, podium, donnez-moi trois. Allez, donnez-moi trois.
Vous ne pouvez pas me demander le vainqueur, vous savez très bien ce que je vais répondre.
La France.
Bah oui,
bien sûr. Oui. Non, mais de cœur et de raison, vraiment les deux, pour le coup.
Mais oui, enfin, moi, je peux pas être... Je vais être...
Prenez autre chose.
Oui, mais je ne vais pas être objectif, pardon.
Oui, c'est vrai.
Bah, j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe de France. On a eu la chance de gagner, de faire le doublé, ce que vous dites à l'heure. Et même si on n'est pas dans les favoris, j'irai toujours la France, parce que c'est mon pays et parce que j'ai eu la chance de gagner pas mal de titres avec cette sélection. Donc oui, la France.
Xavier ?
J'ai envie de dire la même chose. Effectivement, j'avais une finale entre guillemets un petit peu rêvée parce que ma femme est belge et une partie de ma famille, quoi que mes enfants. Donc ouais. France-Belgique, j'aurais bien aimé. Après, ils ont des petits soucis, la Belgique, avec des joueurs importants. Je pense à
Vous aurez des soucis avec votre femme aussi.
Eden Hazard, Broadway aussi. Donc, non, bah, finale
France-Portugal 2007, vous avez eu des soucis avec une partie de votre famille aussi.
Bien sûr.
Oui, un peu.
Ouais, je me suis un peu,
forcément.
Entre guillemets, engueulé, mais bon, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. En 2000, on les avait battus, en demi-finale, et bon, malheureusement, en 2016, ils nous ont battus en finale, en plus à Paris.
Un petit France-Angleterre à Wembley.
France-Angleterre à Wembley, c'est pas.
France-Angleterre à Wembley, avec la génération anglaise, ça pourrait être sympa.
Ouais. C'est la finale rêvée.
Presque rêvée.
À Wembley, ça serait pas mal.
Ça serait beau. Bon.
Allez, on vote pour ça. Merci beaucoup, Robert Pires. Merci, Xavier Demers.
Merci à vous.
Que vous commentez l'Euro sur M6. Le premier match, ce sera mardi, 21h, France-Allemagne. On ne l'aura pas.
Le match de la France.
Le match de la France.
Belgique-Russie samedi.
Et Belgique-Russie dès samedi. Et puis, on n'oublie pas également 6 play où il y a énormément de choses à voir. Vous avez parlé tout à l'heure de ces matchs. Commentez. Il y a beaucoup de surprises sur 6 play. On va regarder ça. Damien, nous on sera là demain matin.
Oui, avec un candidat de jeu télé qui est l'un des plus grands champions dans un jeu télé. Il a tout graflé dans les 12 coups de midi sur TF1. Il s'agit de Paul, qu'on va recevoir demain. Un autiste Asperger aussi, qui viendra nous parler de son livre et qui est aussi dans le club des Invincibles actuellement sur France 2.
Ce sera dès demain évidemment à 10h. On attend vos questions nombreuses pour un nouveau buzz. Bonne journée à toutes et à tous.